Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Des drapeaux israéliens brûlés en Allemagne pour protester contre la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël. Des lieux de culte juifs pris pour cible en Suède. Une loi en Pologne qui interdit de mentionner le caractère polonais de certains camps de la mort. Des actions à caractère antisémite en hausse en France en 2017 selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. On pourrait multiplier les exemples de manifestations de judéophobie en Europe. Phénomène d'autant plus préoccupant qu'il est polymorphe à l'antisémitisme traditionnel de l'extrême droite s'ajoute depuis quelques années sa version moyenne-orientale, un antisémitisme importé, nourri par le conflit israélo-palestinien. Mais cette succession d'indices dans l'actualité ne rend pas forcément compte de manière exacte du phénomène. Comme le notait un rapport de la Fondapol en septembre dernier, la pénurie de données comparables et le manque d'études empêchent d'avoir une image à la fois globale et claire de la violence antisémite dans l'Europe d'aujourd'hui. Alors y a-t-il un regain d'antisémitisme en Europe ? C'est notre sujet du soir dont nous allons discuter avec trois invités, ce dans le cadre d'un partenariat avec le magazine L'Obs qui fait sa une cette semaine sur les nouvelles haines antisémites. Et c'est vous qui avez coordonné ce dossier, Sarah Daniel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, chef du service étranger de L'Obs, spécialiste du Moyen-Orient. Pour discuter avec vous, Esther Benbassa, bonsoir.
Bonsoir.
Sénatrice de Paris pour Europe Écologie Les Verts, directrice d'études à l'école pratique des hautes études. Vous avez notamment publié, il y a beaucoup de ouvrage notamment consacré à cette question, mais une histoire des Juifs de France, c'était il y a quelques années déjà. Puis notre troisième invité, il est au téléphone, puisqu'en ce moment, quand on habite à Paris, c'est parfois un peu compliqué d'arriver jusqu'à nos studios, et c'est le cas ce soir d'Alexis Lacroix. Bonsoir.
Bonsoir, Hervé, toutes mes excuses.
Je vous en prie, vous êtes journaliste, directeur de rédaction délégué du magazine L'Express, vous êtes passé par le magazine Marianne, par France Culture, ça aussi c'était il y a quelques années, et vous venez de publier aux éditions de l'Observatoire, j'accuse 1898-2018, permanence de l'antisémitisme. Alors c'est avec vous que je voudrais commencer, Sarah Daniel, puisque c'est le dossier donc de l'Obs qui nous a donné envie déjà d'être en partenariat et puis de traiter cette question de l'antisémitisme en Europe. Je vais juste citer les tout premiers mots du chapeau du dossier, du petit texte introductif. Suède, Allemagne, Belgique, France, l'Europe est confrontée à une vague de judéophobie. Quels sont les éléments qui vous ont conduit justement à parler de vague pour caractériser ce phénomène ?
Si vous voulez, on a eu l'idée précisément du dossier. On avait constaté depuis un certain nombre, comme tout le monde, un nombre de faits antisémites qui avaient lieu en Europe. Et puis là, on a déclenché ce dossier au moment où Trump, le président Trump, a décidé de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Et là, il y a eu un certain nombre de manifestations, notamment en Allemagne, celle dont vous parlez, celle qui a fait la couverture de l'Obs, où on a brûlé le drapeau israélien, ce qui en soi, bon, on avait déjà eu l'habitude de ça, hein, on a le droit de critiquer la politique d'Israël, mais là, le fait de brûler ce drapeau israélien s'est accompagné aussi de cris de mort aux Juifs, de salut nazi. Vous voyez, on a tout de suite vu qu'on passait un petit peu à autre chose, un peu comme ce qu'a dénoncé François Pupponi sur cette manifestation aussi, qui était aussi une manifestation pro-palestinienne, mais où il y a eu des dérives.
Voilà, François Pupponi, je rappelle, le maire de Sarcelles,
excusez-moi, et donc qui dénonçait des choses beaucoup plus précise à l'encontre, là, non pas de l'État d'Israël, mais des Juifs particulièrement, et qui avaient des relents, quand même, qui font penser à des choses très graves qu'on pensait vraiment révolues. Et donc, voilà. Et donc, on a déclenché un certain nombre de reportages dans ces pays où il y avait eu ces manifestations, notamment en Suède et puis en Allemagne, mais aussi, c'était juste au moment où est sorti le dossier, il y a eu l'affaire du petit garçon agressé à Sarcelles qui portait une kippa, et puis en Belgique, on a vu aussi que la situation était très dramatique. Voilà. Donc dans tous ces pays, si vous voulez, on constate en effet. C'est vrai que c'est difficile à quantifier, comme vous le précisiez, parce que on est encore, en tout cas en particulier en France, très très précautionneux avec ces statistiques. Alors les statistiques ethniques, mais aussi finalement les statistiques de ces agressions, ce que moi je regrette, parce que ça nourrit tous les fantasmes en fait.
Même si d'ailleurs il y a des statistiques. Alors qui ont été publiées il n'y a pas très longtemps. Hein, c'était le fin janvier par le ministère ministère de l'Intérieur, par les services du ministère de l'Intérieur, alors qui disent des choses qui peuvent paraître assez claires et puis qui sont toujours beaucoup plus complexes que finalement ce que disent les chiffres. Mais en tout cas, il y a le constat d'une baisse des menaces à caractère antisémite. Alors, il faut donner les chiffres parce que quand on le dit juste comme ça, on ne peut pas forcément avoir une appréciation exacte de ce que sont ces menaces. 258 menaces à caractère antisémite en 2017, non, 258 en 2016, pardonnez-moi, à 2014, 214, alors attendez, excusez-moi, Esther Anbassa, moi j'ai 258 en 2016, 214 en 2017, et par en revanche une hausse des actions à caractère antisémite, il y en avait 77 en 2016, et 97 en 2017, donc d'un côté, ça descend, de l'autre côté, ça monte. Ce qui veut dire quoi, Esther Benbassa, que même les chiffres officiels, comment dire, disent mal peut-être ce qu'est le niveau d'antisémitisme?
Je ne dirais pas que les chiffres disent mal. Il faut se poser la question, qu'est-ce qu'ils disent les chiffres, n'est-ce pas? Moi, j'ai par exemple, vous voyez, c'est assez impressionniste, hein. J'ai 333 en 2016, baisse à 311 de 2016 à 2017. En revanche, le chiffre que vous citez, ce sont les actions violentes contre la communauté entre 2016 et 2017 qui passent de 77 à 97.
Je pense que vous avez le total des menaces et des actions. Voilà. Ah, et moi, oui, j'ai fait des distinguos. C'est
chiffres...
pour ça qu'on a des chiffres différents.
Bon, peut-être voilà. ce qui est important, ce n'est pas si ce chiffre est exact ou pas, c'est que il y a de l'antisémitisme, il y a des actes antisémites, et il faut se dire aussi, est-ce que une attaque à une synagogue est la même chose que peut-être des gamins qui jouent dans la rue et s'insultent et se disent sales juifs. Je sais pas. Moi, je pense que il y a un antisémitisme ambiant, c'est le tabou qui a sauté. Je ne sais pas si c'est un nouvel antisémitisme, et c'est une façon nouvelle. On parle sans tabou, parfois on tient des propos qui sont antisémites. Il faut dire aussi que tout s'y prête, la haine au quotidien de l'autre, la publication mise en avant chez des éditeurs honorables, Rebatté, Céline, on parle de l'éventuelle production.
Voilà, Maurras qui était inscrit au départ dans les commémorations nationales de 2018.
Moi, je suis une politicienne ouverte et une intellectuelle. Je reste, même si je ne le suis pas à plein temps, et je dirais qu'on peut se dire que ces livres circulent sur Internet et qu'on peut les publier avec un bon appareil critique pour, disons, ne pas focaliser sur ces questions.
Si je disais, Esther Benbassa, que les chiffres, les statistiques officielles ne disent pas tout, c'est simplement aussi parce qu'il y a une forme d'antisémitisme ordinaire qui peut se retrouver justement dans certains propos sur éventuellement les réseaux sociaux qui, eux, ne sont pas quantifiés, en tout cas qui sont difficilement quantifiables. Est-ce que vous, Alexis Lacroix, vous feriez aussi ce constat, alors quoi, d'une vague de judéophobie, d'un regain d'antisémitisme qui s'inscrirait quoi dans un peut-être dans une montée plus globale de l'intolérance, ou bien est-ce que vous y voyez une spécificité liée particulièrement à l'antisémitisme?
Alors d'abord, pour vous répondre, Hervé, je pense qu'effectivement il y a un contexte absolument spécifique que décrit très bien d'ailleurs la remarquable série de reportages publiés par l'Obs cette semaine, donc ce jeudi. Ce sont des reportages remarquables qui montrent bien sûr à l'œuvre des formes d'antisémitisme sans doute différentes par leur nature, par le contexte historique également dans lequel elles plongent leurs racines. En revanche, je suis absolument d'accord avec l'alarme d'ensemble qui a sans doute poussé Sarah Daniel et les équipes de l'Obs à produire cette une. Elle est assez salutaire. D'ailleurs, d'autres ont fait des unes semblables sur cette question, mais c'est salutaire, je crois, d'aller interroger les situations singulières. Et de ce point de vue-là, je pense aussi comme Esther Benbassa, on se rejoint, si vous voulez, sur la même analyse. Il y a une levée des tabous aujourd'hui qui est tout à fait préoccupante, dans des milieux d'ailleurs fort différents. Si vous voulez, il faudra faire la distinction au cours de notre discussion entre, disons, des antisémitismes de type nouveau qui se réfèrent, comme vous l'avez dit, au contexte de ce que certains appellent l'islamo-gauchisme, et puis la reviviscence d'antisémitisme traditionnel, qui étaient ceux que j'analyse notamment dans mon livre, mais qui existaient bien sûr dans le contexte d'avant l'affaire Dreyfus, et qui n'ont jamais perdu totalement de leur vigueur dans certains pays européens. Mais j'aimerais dire à ce sujet que, si vous voulez, le spectacle que nous donne la Pologne aujourd'hui, que nous donne un pays comme la Suède, montre que malheureusement, on a affaire à des phénomènes hybrides, où l'ancien antisémitisme se conjugue avec des formes nouvelles, et j'allais dire de pleine actualité.
Évoquons peut-être justement, si vous le voulez bien, cet ancien antisémitisme, alors qu'on pourrait qualifier d'antisémitisme d'extrême droite. Est-ce que dans les reportages que vous avez fait, enfin, ou que vous avez coordonné pour l'Obs, Sarah Daniel, vous avez observé justement une persistance de cet antisémitisme? C'est vrai, quand on voit les résultats électoraux, par exemple, du parti Alternative für Deutschland, même si c'est pas un parti qui revendique un antisémitisme, mais dans lequel on peut trouver quand même un certain nombre de traces d'antisémitisme, ça témoigne quand même effectivement peut-être d'une levée de tabous, comme l'évoquait Esther Benbassa et Alexis Lacroix.
Oui, si vous voulez, c'est plus le contexte en fait. On voit notamment en Belgique que le parti flamand est traditionnellement antisémite, que Bart De Wever est lui-même héritier de toute ce passé. Malmö est une ville qui a joué un rôle historique important, notamment comme centre du nazisme. Et ensuite, en Allemagne, en effet, on voit la résurgence d'un mouvement d'extrême droite et il y a en effet de plus en plus de manifestations. Ils sont même au Parlement.
Troisième force du Parlement pour l'Allemagne.
Donc tout ça existe. Mais ce qui nous a surpris, étonnés et inquiétés dans ce reportage, c'est que sur ce terreau, dans ce contexte historique, se greffe maintenant un nouvel antisémitisme qui de manière assez intéressante, mais ça peut-être Monsieur Lacroix pourra nous en parler plus, remobilise et revendique aussi ces grands fantasmes que suscitaient les Juifs, c'est-à-dire l'argent, la théorie du complot international, enfin voilà. Donc c'est pas juste, on dépasse là largement le contexte finalement de l'antisionisme et de la critique d'Israël. Ça mobilise de vieux fantasmes, de vieilles peurs et en effet avec beaucoup moins de tabous. Et là, on peut notamment penser que la disparition finalement des derniers survivants de la Shoah aussi fait que les enfants savent beaucoup moins ce qui se passe, connaissent moins l'histoire. Il y a tout un travail maintenant d'apprentissage de l'Holocauste à faire.
Alexis Lacroix, il y a un certain nombre de préjugés anciens autour de l'antisémitisme qui aujourd'hui sont récupérés, peut-être régénérés par ce que vous appelez ce nouvel antisémitisme ?
Oui, absolument. Et si j'ai tant aimé les reportages que Sarah Daniel a mis en œuvre dans son journal, c'est précisément parce qu'ils font la part à une analyse très nuancée, où on montre qu'au fond, le néo-antisémitisme, ou le nouvel antisémitisme dont on parle aujourd'hui, dont le Premier ministre lui-même s'est saisi de manière officielle, il a eu raison, plonge ses racines dans des formes plus anciennes qui sont un petit peu recyclées, qui sont, on dirait en musique, remasterisées. Et donc moi, ce qui m'a intéressé, notamment dans mon livre, mais plus largement, c'est de voir comment un certain nombre de stéréotypes qu'évoquait à l'instant Sarah sur les Juifs et qui existaient au cours du 19e siècle ont été en quelque sorte réinvestis. Ces stéréotypes, dans la culture française, ils ont été développés par un certain nombre d'auteurs qu'il faut relire aujourd'hui pour comprendre ce qui nous menace. Cette espèce de complotisme anti-juif diffus qui existe dans tant de milieux différents, des milieux d'extrême gauche, mais aussi des milieux d'extrême droite, qui en quelque sorte se rejoignent sur l'essentiel dans cette condamnation du peuple juif. Et c'est vrai qu'il y a des auteurs qui sont d'ailleurs sous les feux de l'actualité aujourd'hui, que nous devrions relire pour le comprendre. C'est Charles Maurras, qui évoquait tout à l'heure Esther, et elle a entièrement raison. Charles Maurras, c'est de part en part une pensée politique, très forte par ailleurs, mais c'est de part en part une pensée marquée par l'antisémitisme. C'est absolument évident que l'antisémitisme, pour lui, est un point de départ essentiel de toute théorie politique. Donc il faut le comprendre aussi pour voir comment un certain moracisme peut exister aujourd'hui de manière latente et diffuse dans certains milieux de la société française. Là, je rejoins complètement Esther. Et il y a un autre auteur que Esther, évidemment, connaît bien, qui est tout à fait atterrant quand on le relit vraiment, c'est l'auteur de La France juive, qui était, vous vous en souvenez, Hervé, ce pamphlet paru en 1886, qui avait en quelque sorte été l'attracteur du pire de tous les préjugés de l'époque contre les juifs, lui faisait des portraits.
Voilà, c'est Drummond.
C'était Édouard Drummond. Et il se trouve que dans La France juive, il fait des portraits de banquiers, financiers juifs. Il a une obsession, il a, on dirait aujourd'hui, une sorte de fixette sur le personnage de Rothschild, sur les Rothschild d'ailleurs, et il les met en scène dans leur château, dans leur demeure, il les désigne à la vindicte d'un public avide de gossip et de révélations salaces. Donc ça, c'est tout à fait, si vous voulez, le type de procès d'intention fait à l'égard des Juifs, être du côté des puissances de l'argent, mais du côté des puissances de la République aussi, de l'officialité républicaine.
Et pourtant,
que l'on retrouve aujourd'hui, je finis juste ma phrase, que l'on retrouve aujourd'hui à l'œuvre dans le complotisme, ni droite ni gauche, d'un Alain Soral, et qui fait tellement de dégâts sur les réseaux sociaux.
Et pourtant, il y a chaque année la CNCDH, c'est-à-dire la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui sort des statistiques, justement, et aussi un indicateur de la tolérance, qui témoigne que, en tout cas, s'agissant de la société française, la communauté qui est la mieux acceptée, c'est la communauté juive, et que l'antisémitisme est très massivement aujourd'hui condamné par les Français. Ça veut dire que peuvent exister de manière juxtaposée à la fois un fort rejet de la population de l'antisémitisme et en même temps une résurgence de ces vieux préjugés liés à l'antisémitisme, Esther Benbassa ?
Oui, mais bien sûr, on est beaucoup plus tolérant. On n'est pas à la fin du 19e siècle, on n'est pas au début du 20e siècle, on n'est pas dans l'entre-deux-guerres. Bien sûr, il y a beaucoup, une plus grande tolérance parce qu'encore en France, l'extrême droite n'est pas au pouvoir, heureusement. Mais là, je crois que ces portraits, cet antisémitisme à la Drummond, etc., n'est pas ouvertement exprimé, sauf ces personnages comme Soral, etc. On trouve quand même à l'extrême droite une résurgence de cette thématique. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que, par exemple, on n'a pas fait attention, et je connais bien le Moyen-Orient, sur les protocoles des sages de Sion, Mein Kampf, etc., étaient traduits aussi bien en Turquie qu'ailleurs. On les trouvait, les gens les lisaient. Et aujourd'hui, les grandes orientations de cet antisémitisme du 19e et du 20e se retrouvent, même le langage utilisé, même les thématiques utilisées, on les retrouve dans certains pays du Moyen-Orient, d'une manière, bien sûr, sans aucun, il n'y a pas de complexe. Donc là, par les satellites, par les moyens de communication, etc., ces thématiques, après l'intifada, ont fait leur chemin parmi les populations descendantes d'immigrés et parmi les familles qui trouvaient que Israël était omnipotent et qu'il tuait les Palestiniens. Il y a eu une identification avant d'arriver à la radicalisation. Excusez-moi, on a vu dans ces mêmes milieux une identification aux Palestiniens vainqueurs, terroristes, mais forts, qui vengeaient ceux qui étaient humiliés. Enfin, c'est leur terme, c'est pas moi qui le dis. Et aujourd'hui, on trouve dans les milieux radicalisés, c'est très courant. Moi, j'ai fait un rapport sur la déradicalisation, et c'est la thématique du rejet du juif, de la haine du juif, est omniprésente, il faut le dire. Hein, c'est, il ne faut pas confondre et il ne faut pas faire des catégories, mais il faut aussi voir l'antisémitisme dans cette grande complexité aujourd'hui.
Ah, effectivement, il y a cette présence de l'antisémitisme dans les milieux radicalisés, milieux de l'islamisme radical, mais il y a aussi peut-être un antisémitisme, comment dire, plus banal, plus routinier. Vous évoquiez la question du Moyen-Orient. Bah, c'est aussi une région que vous connaissez bien, justement, Sarah Daniel. Et ce qui est notamment intéressant dans le dossier de l'OB, c'est que il y a aussi le constat d'une importation d'un antisémitisme qui est quelque chose de relativement banal dans un certain nombre de pays arabes, c'est-à-dire qu'il se construit avant tout dans le rejet de ce que représente Israël. Et donc ça conduit très vite au rejet de tout ce qui peut être, de tout ce qui est juif. Et avec une immigration, avec des gens qui viennent de ces pays-là, qui viennent avec cet antisémitisme-là, et qui se confrontent à des sociétés européennes et qui, ce qui peut donner un certain nombre de tensions. Ça a été notamment le cas à Malmö, où dans un des articles du dossier, il y a le constat qui est fait par un éditorialiste suédois que il y a effectivement des minorités qui sont plutôt discriminées, mais qui portent en elles aussi cet antisémitisme.
Oui, bien sûr, il faut reconnaître ça, et ça a été un des grands problèmes auxquels a dû faire face l'Allemagne et Angela Merkel, parce que dans ces manifestations qui ont eu lieu là en décembre 2017, il y avait des migrants qui ont participé et qui ont été vus en train de conspuer la communauté. Et puis il y a aussi ce cas, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais de cette famille de juifs qui a accueilli des migrants, et puis au bout d'un moment, quand ils ont été mis en confiance, les migrants leur ont dit: écoutez, on est vraiment content d'être en Allemagne, parce que c'est quand même vous qui avez compris comment il fallait traiter les juifs avec Hitler. Donc là, évidemment, maintenant l'Allemagne est même contrainte de prendre des mesures, et ils ont dit qu'il serait absolument intraitable avec les migrants qui proféraient de telles accusations.
Mais sur des accusations qui sont relativement banales, quand on est dans un certain nombre de pays du Moyen-Orient.
Complètement, mais de tous les pays, bien sûr. Alors, il y en a où c'est nourri par la proximité, en effet, et le souvenir des guerres. L'Égypte, évidemment, a été nourrie des guerres du Moyen-Orient. Et c'est d'ailleurs, il faut le rappeler, Nasser qui a fait traduire le premier, à grande échelle, les protocoles des sages de Sion. Mais après, même moi, je me souviens, quand j'étais dans tous ces pays-là, le dernier en date des révoltes arabes, c'était la Libye, et à la fin on disait que Kadhafi était juif, et c'était l'insulte la plus importante. Mais là, c'était intéressant ce que vous souleviez, et dans notre dossier, Delphine Horviller, qui est rabbin du mouvement juif libéral de France, disait quelque chose d'intéressant pour qualifier le racisme, en particulier en France, mais en Europe: c'est là où le raciste, convaincu de sa supériorité physique, culturelle ou morale, fait de l'autre un moins que lui, l'antisémite souffre souvent, au contraire, d'un étrange complexe d'infériorité. Oui. Il y a cette idée que le juif est plus riche, qu'il réussit mieux, qu'il est mieux intégré, et ça devient un prétexte. Et donc maintenant, dans cette polarisation à droite, à gauche, où on a fait un petit peu des migrants et des musulmans aussi les damnés de la terre, et ben la figure finalement du juif est à l'opposé, un peu celle des Rothschild, des gens qui dominent la planète, qui sont donc aussi des ennemis de classe. D'où le fait que, en effet, ce qu'on appelle, pour le résumer vulgairement, les islamo-gauchistes, parfois peuvent aussi être un petit peu empêtrés pour dénoncer l'antisémitisme, pour ne pas conspuer aussi une catégorie particulière de la population.
Même si certaines personnalités ont pu aussi, à une époque pas si lointaine, être porteuses aussi d'un certain nombre de clichés, sans qu'on puisse les accuser d'islamo-gauchisme, ne serait-ce parce que ce terme-là n'existait pas. Si je vous rappelle, Alexis Lacroix, une conférence de presse du 27 novembre 1967... Pendant la guerre des six jours, le général de Gaulle, ça vous évoque quoi ?
Vous faites bien de me la rappeler, cette conférence de presse.
Ah oui.
C'est un tournant, Hervé, c'est un tournant géopolitique majeur pour la France. La France a décolonisé peu de temps avant, et notamment à la suite de la guerre d'Algérie, et elle veut rééquilibrer en quelque sorte sa politique, qui était fondée dans les années 50 sur une alliance très étroite avec Israël, et la rééquilibrer en direction, avec une main tendue, vers le monde arabe. Mais à cette occasion, le président de la République de l'époque, Charles de Gaulle, prononce une conférence de presse tout à fait malencontreuse, dans laquelle il salue certes la victoire éclair de Tsahal en juin 67 contre les armées arabes liguées, mais il parle aussi d'un peuple sûr de lui-même, d'élite sûr de lui-même et dominateur.
Ouais, d'élite sûr de lui-même et dominateur, je répète.
Dominateur, voilà, trois adjectifs qui ont quand même une signification très lourde, enfin en tout cas une connotation très lourde, quand on connaît ce que Sarah évoquait à l'instant, c'est-à-dire l'histoire de cet antisémitisme de ressentiment qui a été tellement profond dans la société société française dans des milieux de gauche, comme d'ailleurs dans des milieux de droite, disons traditionnels et conservatrices. Et là, malheureusement, sous les yeux ébahis d'un spectateur engagé qui était déjà Raymond Aron, Charles de Gaulle dessine les traits en fait d'une sorte de retour à l'antisémitisme de Bernanos, de Drummond, de tout ce bestiaire de l'idéologie française qui ne voulait pas l'extermination des juifs comme les hitlériens, mais qui en revanche voulait les mettre en sécession du reste de la société, du reste de la République. Et ce faisant, sans doute à son corps défendant, Charles de Gaulle a inventé une des modalités de cet antisionisme très répandu aujourd'hui, qui considère que par leur attachement légitime à l'État d'Israël, les juifs seraient en quelque sorte retranchés de la citoyenneté commune, qui, ou en tout cas, comme le disait Esther, qui devrait s'expliquer. Ils seraient mis en position de devoir se justifier.
Esther Benbassa n'a pas l'air de partager tout à fait votre analyse. Alors, Esther Benbassa,
elle va répondre. Non, je ne partage pas tout à fait ces images-là, enfin, l'antisémitisme de Gaulle. Bon, écoutez, aujourd'hui, la période est révolue. Aujourd'hui, il y a d'autres problèmes. Il y a d'autres populations qui sont détestées aussi. D'ailleurs, j'aime pas ce mot judéophobie. Excusez-moi, moi, la phobie, ça me gêne. Hein.
Comme
mais c'est un mot utilisé. La judéophobie, l'islamophobie. D'accord. Aujourd'hui, on est dans une société de rejet. Tout est confondu. Le migrant, le réfugié, le jeune né de dans une famille ou de migrants, celui qui est né ici depuis 3 générations mais qui est musulman. Donc, vous savez, il faut aujourd'hui se dire qu'on rejette tout le monde. Moi, je vois, je reçois des tweets, comme j'ai la nationalité israélienne aussi, rentre dans ton pays, salope, qu'est-ce que tu fais en France, tu ne sers pas la République. Bon, enfin, vous savez, tout le monde est sujet à ça, hein, il faut pas croire. Mais il faut aussi dire que dans ce rejet, il y a aussi des confusions parmi les personnes qui analysent ce qui se passe. Ce mot islamo-gauchisme est un mot inventé. Je ne sais pas pourquoi on serait, quand on est gauchiste, on défendrait les musulmans. Alors, c'est un mot qui ne veut rien dire. Qu'il y ait des personnes qui se mettent du côté de la défense d'un futur État palestinien, tous, ils ne sont pas des antisémites. Il faut qu'on fasse la distinction, qu'il y ait des dérives parmi les personnes qui défendent la Palestine. Il y a des dérives. On ne peut pas dire le contraire. Mais il y a aussi ceux qui critiquent la politique d'Israël et qui ne sont pas antisémites. Moi, je fais un colloque, et d'ailleurs, dans le dossier, vous le dites très bien, madame, dans l'éditorial, enfin, dans l'introduction de votre dossier, si ma mémoire est bonne, je l'ai lu que ce matin. Moi, je fais un colloque, enfin, moi, je patronne, je ne fais pas le colloque, qui s'intitule, enfin, lundi, Israël-Palestine, a-t-on le droit de contester la politique israélienne? Moi, je répondrai oui, mais en sachant jusqu'où peut aller une critique. Voilà.
Sarah Daniel et ensuite non, Alexis Lacroix.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. On a le droit, on a le devoir même de critiquer la politique israélienne, surtout quand on enregistre les dérives qu'on voit en ce moment. Maintenant, sur le fait que un certain nombre de personnes de la gauche se dédouane d'une critique quand même de l'antisémitisme, c'est pas tant parce que on les empêche de soutenir la Palestine, c'est pas ça du tout qui est en question. C'est leur manière parfois de quand ils veulent absolument dédouaner l'islam
et la destruction d'Israël.
Oui, et puis de tout rapport. Je veux dire, c'est presque parfois pour certaines personnes, je pense notamment aux indigènes de la République, ah, ils excusent presque, je veux dire, le djihadisme. Hein, c'est pas juste une critique douce, vous voyez, de gens qui sont pro-palestiniens. Donc, et ça, c'est quand même un tout petit peu préoccupant.
Alexis oui. Lacroix.
Alors, pour répondre à Esther, moi, je pense que la cause palestinienne est une juste cause. Je suis, à titre personnel, comme elle, je pense d'ailleurs, favorable à l'existence d'un État palestinien aux côtés de l'État israélien. Et je suis aussi, à titre personnel, très réticent envers, disons, les années successives de politiques annexionnistes des territoires occupés de la Judée-Samarie par les gouvernements d'Israël successifs. Donc, de ce point de vue-là, je la rejoins. Non, moi, ce que je mettais en cause, en reprenant à mon compte le terme que Valls a utilisé, l'islamo-gauchisme. Ça, je le reprends à mon compte, je reconnais. Ah, elle a raison, Esther. Mais ce que je mets en cause, c'est ce que vient de dire Sarah Daniel, c'est-à-dire des mouvements qui sont en fait faussement de gauche et vraiment réactionnaires, étaient extrêmement dangereux. Et le plus connu d'entre eux, effectivement, c'est les indigènes de la République. Et plus largement...
Ils sont 150.
Je sais, mais...
Mais ils ont des réseaux dans les universités, sur les réseaux sociaux. C'est pernicieux, vraiment.
Quand on va à une conférence du pire...
Si je peux juste terminer, Esther. Bon. Si je peux juste terminer ma phrase. Esther, juste, soyez gentil, je termine juste ma phrase. Ces mouvements, à l'instar des indigènes de la République, mais aussi des mouvements décoloniaux, qui, au fil des années, ont transformé la cause palestinienne en argument contre Israël, mais pas contre sa politique, contre son existence. Ça, je crois que c'est criminel, et je crois que tous les républicains, vous y compris, devriez le combattre. Mais d'ailleurs, je sais que vous en êtes secrètement inquiète, simplement pour des raisons politiques, vous ne le dites pas forcément, mais reconnaissez qu'il y a... Mais reconnaissez qu'il y a quand même un problème dans la société française avec ces mouvements radicaux qui sont tout sauf universalistes.
Je crois que c'est un peu le constat quand même, sur lequel vous êtes d'accord. Je voudrais peut-être qu'on sorte un petit peu de la seule société française, même si c'est évidemment intéressant, mais puisqu'on s'intéresse ce soir à la question de l'antisémitisme en Europe, et revenir donc à un des exemples qui a été cité en début d'émission, qui est celui de la Pologne. Écoutez ce reportage qui est tout récent, il date de fin janvier 2018, reportage de la RTBF, au moment où la Pologne décide de sanctionner le terme de « camp de la mort polonais ».
En ce 27 janvier 2018, la Chambre basse polonaise s'est prononcée sur une nouvelle interdiction. Désormais, une expression comme « camp de la mort polonais » est passible de peine de prison.
Quiconque reproche à la nation polonaise les crimes commis par l'Allemagne nazie encourra une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison.
Le gouvernement polonais souhaite ainsi supprimer toute idée que la Pologne est en partie responsable de l'extermination de millions de gens, en majorité des juifs, tués par les nazis. Cela donnerait, selon lui, la fausse impression que la Pologne est responsable de la Shoah, alors que le pays était occupé par l'Allemagne nazie à l'époque. En Israël, ce texte provoque une très vive indignation. Au centre Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem, on souligne également que cette loi est, je cite, « susceptible de brouiller la vérité historique concernant l'assistance que les Allemands ont reçue de la part de la population polonaise ».
Esther Benbassa, est-ce que vous craignez justement cette tentation négationniste, parce que c'est vraiment comme ça qu'on peut l'appeler, et une tentation négationniste qui serait d'autant plus importante au fil du temps que les témoins directs de ce qui s'est passé sont en train de disparaître?
Oui, enfin, ne confondons pas tout, n'est-ce pas? Les camps de la mort n'ont pas été construits par les Polonais. Mais les Allemands ont pensé que la Pologne était assez excentrée et qu'on pouvait construire là-bas et qu'il y avait quand même une tendance antisémite.
Oui, parce qu'on ne peut pas dire que l'antisémitisme soit totalement absent de la société polonaise.
Parce qu'ils ont dit qu'il n'y aura pas beaucoup d'opposition. D'accord. Et on peut d'ailleurs rappeler qu'il y a eu des pogroms avant l'arrivée des Allemands et que en 39, après l'occupation, on a créé les Juifs. 3 millions de Juifs ont porté l'étoile jaune. On a créé des ghettos partout. Cette thèse, parmi les historiens, cette thèse révisionniste des Polonais circule depuis des années. Ce n'est absolument pas nouveau, mais maintenant...
Sauf que c'est à l'état d'un point de vue officiel, c'est-à-dire officiel. C'est l'État qui décide.
Alors, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas construit, on ne va pas dire qu'ils étaient en dehors de tout. Puis ils vous donnent des chiffres. Il faut lire ces chiffres. Ils disent qu'il y a eu 6 millions de Polonais tués par les nazis. OK. 3 millions de Polonais non-juifs et 3 millions de Juifs. Mais ce n'est pas un chiffre, ce n'est pas 3 millions et 3 millions. Les Juifs ne constituaient que 10% de la population. Tandis que les Polonais, c'était 90%. Donc parmi les 90%, il y a eu 3 millions. Donc ce chiffre que les négationnistes avancent, comme vous le voyez, est tout à fait erroné. Et ensuite, je vais vous dire que après la guerre, il y a eu, même en 46, ce fameux pogrom de Kielce où 20 000 Polonais sont venus tuer des Juifs. Et même avant, lorsque les Juifs rentraient du RSS, on les tuait dans les villages, etc., pour ne pas leur rendre leur maison, etc. Donc, et il y a eu aussi des résistants. Donc, il ne faut pas non plus faire un tableau noir. Il est gris, le tableau.
Sarah Daniel, ce phénomène négationniste, est-ce qu'on l'observe aussi en Allemagne, pays dans lequel vous avez enquêté, ou en tout cas, cette tentation peut-être qui pourrait mener au négationnisme dans la société allemande, avec ce qui est évoqué là aussi dans un des articles, une forme de fatigue, de lassitude à l'égard du travail de mémoire. Quand on commence Absolument. À être fatigué par la repentance, ça ouvre des portes qui peuvent être particulièrement problématiques.
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'Allemands en ont assez qu'on leur ressasse leurs responsabilités. Et ils n'ont plus envie qu'on fasse le lien entre eux et ce qu'ont fait leurs grands-parents. Et voilà, bon, ce qu'on peut comprendre aussi à un moment, qu'on n'ait pas envie sans arrêt qu'on vous rappelle un passé atrocement douloureux. Mais malgré tout, il faut en passer par là. Il faut continuer à apprendre cette histoire. Après, on voit ça aussi en Hongrie, on voit ça. Il y a une tentation, évidemment, de retrouver un peu de fierté nationale et de gommer les aspérités et les moments douloureux de son histoire. Ça, c'est une tentation qu'ont tous les pays, mais justement, c'est pour ça qu'il faut lutter contre ça. Et le fait que le parti de droite polonais, là, le PiS, ait voulu inscrire dans la loi le fait que ça soit carrément devenu un crime cette participation, comme vient de le rappeler Esther Benbassa, à des pogroms est quand même très très problématique, même si en effet il faut rappeler qu'il y a eu des justes polonais, que bien sûr c'était, voilà, tous les Polonais n'étaient pas antisémites.
Alexis Lacroix, la meilleure arme pour lutter contre l'antisémitisme, pardonnez-moi, c'est quoi ? C'est de rappeler ce qu'a été l'histoire, c'est de raconter ce que serait, je sais pas moi, la culture juive.
Moi, je suis plutôt un tenant traditionnel du devoir de mémoire, c'est-à-dire je suis de ceux, et je pense que c'est aussi le cas, chacune à leur manière, de vos invités, qui pensent que quand, à partir du moment où on dit la mémoire est devenue omniprésente, est devenue écrasante, la mémoire nous paralyse, on est sur la voie du pire. Et d'ailleurs, pour la société allemande qu'évoquait à l'instant Sarah, il y a eu l'exemple d'un écrivain qui, il y a une vingtaine d'années déjà, Hervé, il s'appelait Martin Walser, avait commencé à rouspéter contre le devoir de mémoire en disant « c'est une sorte de hache morale qui est au-dessus de nos têtes et qui nous empêche de penser ». Donc je suis un tenant, j'allais dire, du devoir de mémoire traditionnel. Mais c'est vrai que l'évocation de la Shoah ne doit pas tenir lieu simplement, ne doit pas être, disons, l'intégralité du message transmis par les républicains sur le judaïsme. Il faudrait aussi rappeler des choses qui sont positives sur le judaïsme, et notamment quand on est français, que ce pays a été construit par des juifs à parité avec les chrétiens, que Rashi, au XIe siècle, était une célébrité de la France médiévale, etc., etc. Vous voyez, rappeler des choses qui sont positives quant à l'apport considérable à toutes les générations et depuis, disons, une dizaine de siècles du judaïsme à la culture française. Ça, chez nous, c'est possible. C'est probablement plus difficile dans des pays où la symbiose a éclaté, et notamment, bien sûr, l'Allemagne, où la symbiose judéo-allemande, qui avait été une telle réalité au XIXe siècle, a ensuite explosé sous la fureur de l'antisémitisme nazi.
Même si vous évoquez dans le reportage en Allemagne, Sarah Daniel, une initiative qui s'appelle Louer un juif, qui a été lancée en 2015, un programme de séminaire pour expliquer ce qu'est la culture et ce qu'est l'identité juive, notamment, en particulier aux non-juifs, justement.
Oui, c'est un titre très provocateur de cette organisation, Rent a Jew, Louer un juif, mais en fait, c'était né à l'initiative notamment de professeurs qui sont aperçus qu'il y avait une recrudescence de l'antisémitisme dans les classes, et donc l'idée, c'est d'envoyer des juifs montrer à une catégorie de la population que c'est pas des monstres, qui sont pas plus riches que les autres, qui sont pas qui sont des Allemands comme les autres.
Et peut-être aussi revenir sur cette histoire, puisque vous en avez fait des ouvrages, vous, Esther Benbassa.
Oui, même si la France n'a pas été construite à parité avec les Juifs et les populations locales, les Juifs ont fait partie de cette civilisation, ont contribué, et aujourd'hui on peut montrer à côté de la mémoire aussi toute la culture juive avec ses réminiscences et regarder l'avenir avec des gens qui peuvent, n'est-ce pas, encore construire et contribuer à la culture. Mais tout ça ne sera pas suffisant, on le sait bien. Il y a toute une ambiance aujourd'hui qui fait que tous les antis, tous les rejets vont augmenter si on continue de cette manière-là. C'est la globalisation aussi qui fait qu'on s'enferme. Le nationalisme, le grand ennemi des Juifs, n'est-ce pas ? Et le nationalisme, eh ben oui, le nationalisme aujourd'hui connaît un avenir, hélas, prospère. Et moi, je suis cosmopolite et je regarde ça avec beaucoup d'effroi.
Et d'où la nécessité de continuer à alerter justement sur ces questions. C'est ce que fait l'Obs cette semaine, les nouvelles haines antisémites. Dossier coordonné par Sarah Daniel. Merci beaucoup à vous. Merci à Alexis Lacroix. Je rappelle, J'accuse 1898-2018. Permanence de l'antisémitisme, c'est aux éditions de l'Observatoire. Et merci à vous, Esther Benbassa, ainsi qu'à toute l'équipe du Grain, Virginie Leduo, Antoine Tricot, Fanny Richet, Antoine Dulster et Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Clément Daté.